Saguenay. Le show du matin avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Il est 9h presque 12, maximum de 23 aujourd'hui, 26 demain, 27 lundi prochain. Bon, il y aura un petit 19-16, mettons, là, entre les deux. Mais pour le reste, ah ben ouais, on est chanceux. Honnêtement, là, tu sais, je dis on est chanceux, Martin, on peut-tu dire qu'on le mérite avec d'abord le deux mois qu'on vient de passer, infernal. Deuxième des choses, avec le printemps qui arrivait pas, puis cet hiver qui a commencé de bonheur puis qui finissait plus de finir. Alors, c'est un juste retour des choses, un 10 jours de beau temps, presque à 20 degrés.
Tout à fait.
Un juste retour des choses. Maintenant, il y a 40 ans aujourd'hui.
40 ans.
Déjà 40 ans. Je n'ai pas 40 ans, tu n'as pas 40 ans.
J'avais moins 5 ans.
J'étais en gestation. Mm-hmm. Ou à quelques semaines ou quelques mois de la gestation, je suis né en 81. Mm-hmm. Mais il y a 40 ans aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. D'abord, soit le Québec disait non au référendum, ou soit le Québec disait oui au Grand Canada.
Hey, lâche-moi le Canada. Moi, je l'ai déjà dit sur nos ondes plusieurs fois, je suis souverainiste. Je le suis encore aujourd'hui, malgré tout. Hein, moi, je travaille avec des souverainistes déçus, des gens qui l'ont déjà été mais qui ne le sont plus.
Oui.
Moi, je demeure convaincu que quand tu restes chez tes parents et que tu veux vivre de tes propres ailes et que tu n'as pas peur de ne pas être confortable pour quelques années, mieux vaut voler de tes propres ailes, prendre tes propres décisions et faire les choses comme toi, tu veux les faire. Moi, je considère que c'est un principe qui est indiscutable.
Ouais. Bon. Mais il y a 40 ans, donc, malheureusement, le Québec disait non et ça a donné la déclaration suivante de René Lévesque qui est restée imprimée dans la mémoire collective.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Et cette simple phrase a permis de rêver tranquillement vers un autre référendum qui s'est concrétisé en 1995. Il y a quelqu'un qui a vécu de près les deux. D'ailleurs, le premier référendum, parce qu'il faisait partie de la première vague de péquistes.
Mais il faisait partie du gouvernement Lévesque, en
absolument,
fait.
Et du gouvernement Lévesque qui donc a fait le référendum de 1980. C'est Marc-André Bédard qui est en bout de ligne. Monsieur Bédard, bon matin.
Bonjour.
Que de souvenirs.
Un plaisir de vous rencontrer.
Pareillement, déjà.
D'échanger avec vous. Vous avez un compagnon qui, je le vois, a une ferveur remarquable.
Merci, M. Bédard.
Ça fait chaud au cœur quand on voit qu'on ne s'est pas battu pour rien.
Il a le fleur de lysée, d'ailleurs, tatoué sur le corps. Et c'est même pas une blague, c'est au sens propre. Mais est-ce que, écoutez, 40 ans plus tard,
oui.
Auriez-vous d'abord, après le résultat de 1980 qui était, oui, décevant, imaginez qu'on aurait pu en avoir un deuxième aussi rapidement que 95?
Non, je n'étais pas surpris parce que les communications ayant changé à ce moment-là, la vitesse s'étant accélérée par la force des choses, je croyais définitivement qu'il y en aurait un deuxième, là, en espérant toujours le bon résultat. Mais, en 80, comme vous le savez, ben là, vous n'étiez pas là, mais vous étiez 5 ans avant votre venue. C'est une période. Référendum là, de 80, c'est une période intense dont vous comprendrez, je me souviens toujours là, avec émotion, mm-hmm. parce que c'était une période, pour sur le plan de la société québécoise, là, c'était une période de effervescence remarquable, mm-hmm. puis très mobilisante.
Mais justement, M. Bédard, vous aviez, tu sais, le Québec, là, pour arriver au référendum de 80, avec la Révolution tranquille dans les années 60, la responsabilité qu'on donnait aux Québécois, les entreprises qui poussaient, vous aviez l'impression que c'était le fil d'arrivée. Pourquoi les Québécois vous ont pas suivi jusqu'au bout?
Ah, ça, par exemple, faudrait... C'est qu'il y a du travail d'information, de... Disons que je crois vraiment que le grand adversaire de la souveraineté, qui est un changement majeur, c'est toujours la peur. Hein? Alors, cette peur-là, fallait la vaincre par l'information. Pourtant, on avait toutes les raisons d'espérer. Vous savez, On avait été élu comme gouvernement. On avait fait deux promesses d'être un bon gouvernement puis de faire un référendum. Je pense qu'on a, on avait été un bon gouvernement avec plusieurs réformes importantes, essentielles, dont vous vous souvenez de plusieurs, sans doute, là. Et puis, il y avait une mobilisation là, remarquable. Là. Moi, je vois... c'était une période d'engagement, à part de tout ça, remarquable, de dans le sens que on n'avait vraiment pas l'impression que les gens s'engageaient, que les personnes s'engageaient pour faire une carrière politique. On s'engageait pour vraiment construire la carrière d'un Québec souverain, maître de sa destinée, en se disant que les autres continueraient. Et dans ce sens-là, comme engagement, là, ça amenait beaucoup d'émotions, puis ça a représenté un soir, je peux vous le dire, là, pour moi, je militais depuis 60, je militais ouvertement pour la souveraineté, ben avant la fondation du PQ. Et pour moi, ça a été une soirée d'une tristesse, ben pour moi, et pour plusieurs là, qui ont commencé en même temps que moi. Ça a été une soirée de tristesse de constater que ton objectif n'a pas été atteint,
ouais.
Puis que tu n'as pas été réalisé.
Mais et
puis même de t'apercevoir que ton rêve d'indépendance d'un pays sera rendu plus difficile à réaliser.
Ouais. Mais es-tu surpris du résultat?
Il fallait du courage pour vivre la journée, la soirée, en tout cas.
Étiez-vous surpris du résultat ou jusqu'à quel point vous étiez confiant de remporter une victoire?
Non, sur le plan national, moi, je peux pas dire que ça a été une grande surprise. Sur le plan, mais... On avait toute la raison d'y croire, parce que dans la région, là, faut bien penser, c'est incroyable, on le souligne pas assez souvent, mais ici, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le contraire, c'est 60-40 pour la souveraineté. Ça veut dire là, une moyenne différence, ça, un moyen renversement. Et pourquoi? Parce que ben, il y avait un militantisme ici depuis la fondation. Depuis plusieurs années, avant le référendum, naturellement, on en était rendu à faire on était rendu à entre 3000 et 4000 militants par comté. Ça veut dire énormément d'assemblées de cuisine, ça veut dire des contacts, ça voulait dire des gens. Moi, je suis à même de le dire, là, qui, le jour et tous les soirs, trouver le moyen de contacter des gens, d'engager la discussion. Et on a eu le résultat, fantastique, mais formidable. Ça ferait 40 ans qu'on serait indépendant, n'est-ce pas? Mais c'est pas juste une région qui compte, hein, parce qu'avec... puis j'ai le souvenir là, de gars comme Jacques Brassard, comme Hubert Debien, en fait. Puis je peux vous dire, là, tous les militants, là, je pourrais presque tous... pour en nommer des centaines avec qui on a travaillé durant des années. Alors, c'est des belles périodes. C'est qu'on avait compris. Ben, on avait compris. Je veux pas dire qu'ailleurs, ils l'ont pas compris, là. Mais comme c'était la peur de notre adversaire, nous, ce qui comptait, c'est l'information. Il n'y a qu'une manière de battre la peur. Il n'y a qu'une manière, d'ailleurs, de toute façon, de faire la souveraineté, là, de se l'assurer. C'est de mettre la... c'est de mettre le cap sur informer les gens. Faut convaincre, hein? C'est pas compliqué. C'est la seule manière de gagner. C'est ce que nous avons fait dans la région, naturellement.
OK. Dites-moi,
excusez-moi, est-ce que... là, j'en parle.
Non, il n'y a pas de problème. Dites-moi.
J'en parle avec abondance.
Ben, c'est parfait. Est-ce que ça a été peut-être aussi le début d'une scission entre Montréal et ses régions? Les régions qui ont, dans certains cas, ont dit oui. Montréal qui était pas là, qui était plus fédéraliste.
Peut-être pas une scission entre Montréal et les régions, mais il reste qu'à l'intérieur du parti, ça a été le commencement d'une réflexion sur les moyens, les différents moyens d'en arriver à un résultat. Nous, on connaissait notre résultat. On voulait vendre notre manière d'y arriver, hein, mais c'est pas... Disons, c'est là que c'est à partir de ce moment-là là, qu'on a commencé les. Vous en rappelez à l'intérieur. Ben, vous en rappelez. À l'intérieur du parti, les discussions sur quelle est la meilleure manière d'arriver, de réaliser la souveraineté avec naturellement des gens qui pensaient d'une certaine façon puis d'autres différemment.
Visiblement, ça prenait juste une bonne chicane pour relancer la ferveur parce que Lac Meach puis Charlottetown,
oui,
c'est ça qui a rallumé la flamme, littéralement.
Ça, vous avez raison. Puis en même temps, c'est un point d'espoir. Faut s'en rappeler parce que quand c'est arrivé, la souveraineté était un petit peu, était pas mal à la baisse. Hein? Puis avec, on se rappelle, quand il y a eu Lac Meach, dans le temps de le dire, là. Si un homme comme M. Bourassa avait décidé de faire la souveraineté, peut-être un des seuls qui aurait pu en faire presque avec unanimité.
Et c'est spécial parce que...
Ça prend à un moment donné, c'est peut-être... Puis moi, je désespère pas loin de là. Ça, parce que la voie normale d'un pays, c'est comme la voie normale d'un individu.
Mais vous parlez
c'est prendre en main ses affaires.
Vous parlez d'information, mais les Québécois sont très émotifs. T'sais, vous me dites Robert Bourassa aurait pu la faire, puis François Legault est tellement aimé actuellement que ça me surprendrait pas qu'il soit capable. Pensez-vous qu'une crise comme on vit actuellement va faire prendre conscience aux Québécois que peut-être qu'on est capable, justement, de gérer un pays puis de faire face à des défis?
Bien, ça, sur la capacité de gérer un pays, j'en ai jamais douté, puis je suis convaincu que nous aurions des résultats meilleurs que... définitivement meilleur que d'être géré par d'autres, là. Quand on voit tout l'esprit créatif, l'esprit d'entreprise des Québécois, là, leur manière d'être solidaire, quand c'est le temps, là, au niveau de la crise, là, on voit l'ardeur qu'ils ont, puis le courage qu'ils manifestent pour en sortir. On a tout ce qu'il faut pour faire un pays dont on serait fier incroyablement, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, qu'est-ce qui, à un moment donné, est un élément déterminant pour faire en sorte que les gens décident majoritairement de faire un grand pas? Ben ça, c'est dur à déterminer. Ouais. Est-ce que ça passe par des hommes? Ça ne peut pas passer par des hommes seulement. Ça passe par un ensemble d'événements qui fait que, à un moment donné, la solution s'impose, comme à l'heure actuelle. Regardez, ce qu'on vit à l'heure actuelle va naturellement imposer presque une nouvelle manière de vivre. Là. Alors, comme indépendantiste, il faut espérer qu'à un moment donné, il va y avoir un ensemble de circonstances, puis aussi d'engagement, parce que tu peux pas faire un pays si tu n'as pas l'engagement profond de le faire puis de le construire. Hein.
Ah, puis ça prend un tout. Puis moi, ce que je pense me frappe le plus du référendum de 1980, c'est la culture québécoise. Juste, mettons, de 1976 à 80, ça a été une effervescence épouvantable,
oui.
Fantastique, ah, oui. En termes de musique, en termes de production télévisuelle, en termes de tout. Et de
sur le plan social, prenez sur le plan social toutes les réformes là, qu'on a apportées, je rappelle, que ce soit la 101, la loi 101, en fait, le zonage agricole, également sur le plan sur le plan du financement des vertus politiques. Personnellement, moi, je peux dire que je crois avoir fait une réforme vraiment fondamentale. Elle dure depuis 40 ans sans amendement parce que sur la réforme du droit de la famille, c'est essentiel pour une société, ça. Oui. Puis ça en est fait d'autres. Alors, ça a évolué, hein. Mais on a tellement de raisons d'être fiers, puis... de croire au Québec, en tout cas.
Mais c'est le lendemain du référendum. Hein. Tu sais, toutes ces artistes-là, il y avait plein de chansons, le monde était fier de leur culture. Et de 1980 à 1985, plus rien. C'était, le Québec était comme mort.
Ben, c'est l'âme. Hein. Ça prend de l'âme pour faire un pays, pas seulement pour faire un pays, mais pour vivre intensément une société sur le plan social, là, il faut que le cœur y soit. Hein. Puis pour créer, pour vivre intensément, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan social, ben il faut, on s'aperçoit là, que à l'heure actuelle, prenez, on vit présentement des décès de 4-5, vous parlez du culturel, du décès de 4-5 chanteuses de ce temps-là, qui étaient des vedettes presque internationales. Hein?
Absolument.
Ça a été une période fantastique, mais il faut se dire que peut-être la tranquillité de ce qui a suivi, faut le désirer puis le souhaiter. C'est une manière de reconstruire tranquillement la prochaine étape.
Monsieur Bédard, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Au plaisir. Bonne journée, vous aussi.
Marc-André Bédard, qui était là, qui était dans le gouvernement pour le référendum de 1980, aux premières loges aux côtés de René Lévesque voir le résultat.
Tu sais, moi, ce qui me choque, parce que souvent, quand je parle que je suis souverainiste, les gens se posent la question, pourquoi encore? Puis je vais vous expliquer bien simple pourquoi encore. Parce que je considère que ça nous coûte plus cher de ne pas l'être que de l'être, parce que ces gars-là et ces femmes-là, de 1960 jusqu'à 1980, on est pratiquement devenu un pays. Ils ont fait l'inverse. Ils se sont dit, on va convaincre les gens en se donnant tous les outils d'un État.
Tous les pouvoirs.
Puis quand on va arriver au fil d'arrivée, ils vont se dire, ben, sais-tu quoi?
Rendu
c'est là. Pas mal déjà ça. Mm-hmm. On peut critiquer cette façon de faire-là. Parce qu'on aurait pu aussi simplement se dire, on se donne un pays, puis après, on va se bâtir un État. Mais on a fait le contraire au Québec. Et on a créé un confort en faisant ça. Et les gens... On pensait qu'au fil d'arrivée, il allait se dire, rendu là, on va faire le dernier pas. Et surprenamment, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est « Mais ça va me donner quoi de plus? »
Ben oui.
« J'ai déjà tout. »
Ben oui.
Ce qui fait que depuis 1980, on paye pour un pays qui n'en est pas un.
Ouais, mais là, toutes les provinces peuvent se dire ça.
Non, non, c'est faux ce que tu dis. Parce qu'au Québec, on s'est donné des structures que les autres provinces n'ont pas. Et on demande... des remboursements à la hauteur des services qu'on donne au Québec. C'est pas vrai. Au Québec, on fonctionne différemment de toutes les autres provinces canadiennes.
On a plus de pouvoir, là, mais sur l'essentiel, les provinces sont pas mal autonomes de bien des affaires. Là.
C'est le Québec le plus autonome.
Oui.
Dans presque toutes les sphères. En fait, le pas entre la province et le pays au Québec là, est probablement le pas le plus petit de toutes les autres provinces canadiennes.
Tout à fait. Mais un des problèmes, je dirais qu'au-delà du confort... Là, écoute, il y a aussi le monde qui se dit actuellement, le gars, je paye tellement déjà d'impôts, je vais-tu en payer encore plus? Je regarde comment ma province est gérée. Je veux-tu vraiment qu'il gère un pays? Je suis pas sûr.
Oui, mais je regarde comment il gère le Canada. Pas mieux, là. Ben, on passe notre temps à bâcher sur Justin Trudeau.
Justin Trudeau, je suis très d'accord. C'est peut-être en passant, Trudeau peut-être le meilleur allié des souverainistes actuellement.
Tu seras jamais 100% satisfait de comment un pays est géré.
Le Canada, sous les conservateurs, personnellement, comme contribuable, avec mon autonomie provinciale, j'avais rien à dire.
Oui, mais si on avait eu un Québec indépendant... Puis ça, c'est l'autre gros problème du Parti québécois, là, c'est qu'on nous a vendu un pays IKEA, que j'appelle, là. Un pays qui était déjà tout mon...
C'est parce qu'ils ont...
C'était à gauche, puis c'était ici, puis c'était ça.
C'est ça.
Mais on aurait pu avoir un Québec avec un gouvernement conservateur, pourquoi pas? Puis ils ont fait deux erreurs. La première erreur, c'est de nous vendre un Québec déjà tout fait. C'est-à-dire que le Québec dans lequel on va vivre va avoir des programmes sociaux. Non.
Mais si c'est celui qui fait pas ton affaire,
ben c'est ça. Moi, je veux un pays, puis on va le monter ensemble.
De la manière dont c'est géré avec l'impôt que je paye, c'est là que je veux en venir.
On va le monter ensemble, puis on va discuter, puis on aura des élections, puis on décidera où est-ce que vous voulez aller. Puis l'autre erreur qu'ils ont faite, c'est de vouloir faire un pays contre un autre pays. J'ai absolument rien contre les Canadiens anglais, moi. J'adore Ottawa. Toronto, c'est une belle ville.
Vancouver,
c'est le fun. Oui. C'est juste pas mon pays. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas que je les haïs. Moi, je trouve que, personnellement, c'est deux erreurs qu'ils ont faites.
Oui.
Puis ils sont pas capables de s'en sortir.
Tendance à être d'accord. 9h29.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Saguenay, le show du matin.
Comme on vient de passer plusieurs semaines...